L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3900 francs par jour seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, arrive le week-end prochain sur le territoire pour poursuivre les discussions entamées à Paris. Et pour en parler, vous recevez ce matin le député de la première circonscription.
Oui, notre invité du matin, c'est Nicolas Mazov qui participait à ces discussions bilatérales au sein de la délégation loyaliste et qui vient de rentrer de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans nos studios. Alors tout de suite, une réaction d'actualité, hein. Concernant les déclarations de Manuel Valls, c'est cette petite phrase dans un article du Monde. Quand il déclare « la trajectoire est celle qu'il va d'une souveraineté partagée à une souveraineté pleine et entière ». Vous êtes déjà interrogé sur votre Facebook, erreur de retranscription ou erreur politique, on le saura vite. Alors est-ce que vous avez la réponse ce matin, erreur de retranscription ou erreur politique de la part de Manuel Valls ?
Toujours pas, hein. Le ministre ne s'est pas réexprimé après cette déclaration, il ne l'a pas démenti. Ce qui me fait dire que si Emmanuel Valls ne revient pas sur ses paroles, ça voudrait dire qu'il est partial. Et il est partial envers les indépendantistes, puisque je crois qu'on doit appliquer le résultat des trois référendums en Nouvelle-Calédonie. Il n'a jamais été dit que l'accord de Nouméa serait finalement quelque chose comme Hong Kong avec la Chine, qu'au bout d'un moment, ça allait devenir indépendant de manière automatique. C'est les Calédoniens qui choisissaient si la Calédonie restait française ou pas. Ils ont choisi, et le fait d'être un peu négationniste sur le résultat des trois référendums, je trouve, est très dangereux, à la fois pour la démocratie, à la fois pour la société calédonienne, parce que ça voudrait dire qu'en fait, la parole du peuple calédonien ne vaut rien. Donc moi, j'attends à ce que le ministre, peut-être pour sa venue en Nouvelle-Calédonie, précise les choses.
Justement, vous allez lui demander des explications, en quelque sorte, vous attendez une clarification lors de sa venue ?
Mais évidemment, enfin, pardon, mais on ne se rend pas compte de la gravité de cette phrase, parce que c'est le ministre des Outre-mer en charge des discussions qui dit, de toute façon, l'accord de Nouméa doit mener à la pleine souveraineté. Mais l'accord de Nouméa, il ne dit pas ça. L'accord de Nouméa, il dit, c'est la pleine souveraineté si les Calédoniens le décident. Or, on ne l'a pas décidé, il me semble. Et pourtant, on ne l'a pas décidé avec des bâtons dans les roues, puisqu'on l'a fait en plus avec un corps électoral gelé. Donc pardon, mais je trouve que c'est une erreur politique de fond, si c'est avéré, et j'attends que le ministre précise les choses. Parce qu'on a besoin de savoir qui est notre interlocuteur aussi.
Il fait cette déclaration à l'issue des discussions bilatérales qui semblaient s'être bien passées. Il ne vous a pas du tout tenu à langage de ce style-là quand vous l'avez rencontré ?
Pas du tout, il était plutôt... en fait, les bilatérales, c'est quoi ? C'est les partenaires calédoniens qui présentent leur projet, leur vision des choses. Il est à l'écoute, il dit, il comprend, d'accord, ok, on va essayer de faire comme ça. Il avait l'air de comprendre de ce qu'on lui disait, ce qu'on argumentait. Alors nous, c'est très simple, hein. Il y avait le résultat des trois référendums, la Calédonie, elle est française, on veut un renforcement des provinces, enfin, le discours que tout le monde connaît aujourd'hui. Et il avait l'air à l'écoute et de comprendre. Donc c'est pour ça que nous sommes un peu surpris, comme je l'ai dit, c'est un peu la douche froide, qu'à la sortie, il puisse s'exprimer. Et je trouve qu'il y a une autre erreur politique de fond dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de déclaration pendant des négociations comme ça. Si on veut faire échouer les négociations, c'est le meilleur moyen de s'y prendre. Déjà que Gérard Larcher nous avait parlé de souveraineté partagée, voilà que maintenant Manuel Valls parle de pleine souveraineté. Je crois que, en fait, l'État a besoin d'être concentré sur le fait de réussir les discussions, parce qu'il est gentil, le ministre des Outre-mer, mais on n'a même pas fait de trilatéral, il n'a même pas réussi à convaincre les indépendantistes de venir à la table des négociations avec nous. Donc, avant de parler de pleine souveraineté, déjà réunir l'ensemble des partenaires.
Alors, vous avez écrit également, si Manuel Valls confirme ses propos, sa volonté de trouver un accord sera compromise. Est-ce que ça veut dire que cette position du ministre des Outre-mer peut remettre en cause votre participation aux discussions sur l'avenir ?
Nos participations, non. Mais, parce que nous, on sera toujours des partisans de discuter, de dialoguer et d'être présents à la table des négociations. Nous, on ne fait pas la politique de la chaise vide. Par contre, nous, on ne trouvera pas un accord politique qui mène à l'indépendance. Enfin, on n'a pas été élus pour ça. Les Calédoniens n'ont pas choisi ça. Moi, je n'ai pas été élu député pour défendre le chemin vers la pleine souveraineté. Donc, je ne peux pas signer un accord politique qui dise que la Nouvelle-Calédonie va vers la pleine souveraineté. Ça, ce n'est pas possible. Non.
Alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant de la visite de Manuel Valls ? Elle semble déjà un peu difficile, alors qu'il doit arriver samedi prochain. Vous attendez un calendrier, une méthode d'explication déjà sur sa position ?
Non, mais ce qu'on attend, c'est quelque chose de très simple. C'est il nous réunit, et il nous réunit avec les indépendantistes, et on travaille jour et nuit jusqu'à temps qu'on puisse trouver un accord politique, ou un équilibre, ou un compromis. Mais moi, ce que je veux de cette visite, c'est pas... C'est pas Manuel Valls fait la tournée de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls va voir un tel, va voir UVA, va voir la côte Est, va voir la côte Ouest. Moi, je veux que Manuel Valls, en fait, participe à des négociations politiques le plus longtemps possible et qu'on puisse annoncer quelque chose aux Calédoniens à la sortie. C'est ça que les Calédoniens attendent et c'est ça dont la Nouvelle-Calédonie a besoin, c'est qu'on leur annonce quelque chose à la fin. Si c'est pour venir finalement faire la tournée des popotes, ça sert à rien.
Vous attendez des discussions, mais l'UCFLNKS a participé à des bilatérales avec le ministre, mais est-ce qu'elle va accepter selon vous une négociation politique, des discussions à trois? Elle n'a pas l'air prête pour l'instant.
Oui, mais vous voyez, là encore, c'est là où je trouve que l'État est injuste dans son comportement. Pardon, mais ça fait depuis 2021, le dernier référendum, que l'Union calédonienne ne veut pas discuter avec les autres partenaires calédoniens. Alors, ils ont beau nous expliquer qu'eux, ils sont pour un peuple calédonien, multiculturel, on fait avec tout le monde, on a reconnu les victimes de l'histoire avec Nainville-les-Roches. Pour l'instant, ils veulent parler à personne. Et ils veulent pas parler à Nicolas Mesdorf ou à Sonia Baquès, qui sont les plus non-indépendantistes. Ils ne parlent même pas à l'éveil océanien, ils ne parlent même pas à Calédonie ensemble, ils ne parlent à personne, en fait. Donc, eux, ils veulent juste négocier avec l'État. Mais ça démontre quand même le projet politique de l'Union calédonienne et de la CCAT, sa déclinaison. C'est un projet qui exclut les autres Calédoniens de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc, si, à un moment donné, la France, l'État, n'est pas capable de dire, à un moment donné, stop, vous ne pouvez pas nier l'existence de toute une partie de la population calédonienne, on ne pourra pas avancer. Et moi, c'est le reproche principal que je fais aujourd'hui à l'État, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce système de bilatéral, stop, parce que ça, c'est de l'exclusion.
Manuel Valls a d'ailleurs eu l'occasion de répondre à Emmanuel Tchibaou assez fermement quand le député de la deuxième circonscription a mis en cause, notamment à l'Assemblée nationale, dans une question, votre projet de fédéralisme interne. Manuel Valls a eu l'air assez ferme dans sa proposition, pas suffisamment à votre avis ?
Non, mais je trouve que l'erreur de Manuel Valls, c'est dans la réponse au député Tchibaou, c'est de dire oui, il faut que l'ensemble des radicalités cesse, faut, des deux côtés. Il faut arrêter d'être radical des deux côtés.
Ça veut dire que ça vous visait aussi, vous êtes radical, vous ?
Mais je trouve ça ahurissant. Ahurissant, c'est-à-dire, mais qui est radical ici ? Regardez le projet des non-indépendantistes. Le projet des non-indépendantistes, nous, on parle de peuple calédonien. On parle de peuple calédonien, à faire avec tout le monde, les Kanaks, les Européens, les Wallisiens, les Futuniens, les Asiatiques. On veut tout le monde, on veut une société multiculturelle. Je ne pense pas que ça soit radical. On veut appliquer le résultat d'un vote populaire, qui est le résultat des trois référendums. Il ne me semble pas que respecter la démocratie, ça soit quelque chose de radical. On est prêt à discuter du corps électoral sur un corps électoral qui soit glissant. On ne demande même pas le retour au corps électoral national des 6 mois de présence que normalement on pourrait demander, en fait, parce qu'on a choisi d'être français. Et ça, c'est pas être radical. Regardez sur l'économie. On est à terre. On n'a jamais eu autant besoin de l'État. Il faudrait tout de suite revendiquer, en fait, l'administration directe de l'État, comme ça s'est passé après 88, après les événements de 88. On ne le demande même pas. On demande à ce que l'État nous soutiennent pour que nous, on puisse faire des réformes. Ce n'est pas être radical. Pardon, mais le seul parti politique en Nouvelle-Calédonie qui est radical, c'est l'UC. C'est l'UC qui ne veut pas parler au reste de la population. C'est l'UC qui va à des délégations à Paris avec des représentants de l'Azerbaïdjan, avec des représentants de la CCAT. C'est l'UC qui considère qu'il y a un peuple kanak et les autres. C'est l'UC qui considère qu'il y a un peuple premier et des peuples seconds. Nous, on n'est pas des radicaux.
Mais justement, face à la radicalisation de l'UCFLNKS face aux propos que tient le ministre des Outre-mer, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher d'être pas assez radicaux finalement? Est-ce que vous ne devez pas essayer de défendre plus fortement peut-être la proposition, la position de la majorité des Calédoniens?
Je pense qu'en fait, s'il y a un manque dans l'organisation politique calédonienne, c'est il manque un parti non indépendantiste, un mouvement non indépendantiste plus dur. Parce que nous, on a toujours été conciliant, raisonnable, force de proposition, force de compromis, parce qu'on sait qu'il faut faire avec tout le monde, qu'il faut trouver des équilibres, etc. Et je trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, s'il manque un mouvement politique qui puisse permettre, alors je suis désolé, je vais parler de technique, mais d'élargir la fenêtre d'Overton, vous taperez sur Google fenêtre d'Overton, c'est un mouvement à droite qui soit plus puissant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, forcément que nous, on nous catalogue de gens à droite, radicaux, etc. Mais quand on regarde notre discours quand on applique finalement ce qu'on demande. C'est pas du tout radical, c'est plutôt un mouvement de centre-droit. Donc je trouve que le ministre, quand il parle de radicalité des deux côtés, je trouve qu'il nous manque de respect.
Pour revenir aux discussions à Paris et en marge de ces bilatérales, vous avez, en tant que député, assisté à la réunion de la délégation aux Outre-mer qui auditionnait Alain Christnart et Jean-François Merle. Ils ont encore une forte influence, et qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion ? Vous leur avez répondu, enfin vous avez pris position face à eux.
Hein. Oui, moi j'ai dit la vérité à Alain Christnart. Alain Christnart nous expliquait à quel point il n'y aurait jamais de paix en Nouvelle-Calédonie s'il n'y avait pas l'indépendance. Je lui ai dit qu'on était désolé d'avoir fait échouer son plan, hein, qui devait mener automatiquement à l'indépendance. Donc je trouve qu'ils réapparaissent, Christnart et Merle, dans le débat sur la Nouvelle-Calédonie, sous l'impulsion, là encore, de l'arrivée de Manuel Valls. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose, parce que ce sont des soi-disant « experts » entre guillemets qui, en fait, sont des partis pris pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de retrouver ces personnes qui ont participé, en fait, à la rédaction des accords et à leur ambiguïté qui a mené au 13 mai. Donc, leur solution n'a pas marché. Pourquoi elle remarcherait maintenant ? Voilà. Donc, je pense qu'il faut les écarter de tout débat sur la Nouvelle-Calédonie.
Un mot quand même d'économie. Il y a un forum économique qui s'est tenu la semaine dernière. On sait que les Calédoniens sont aussi très inquiets sur la situation économique de la Calédonie. Est-ce que vous êtes sorti rassuré de ce forum ? Est-ce que, à ce niveau-là, l'État va être présent et va effectivement apporter l'aide dont la Calédonie a besoin, ou ce n'est pas encore acquis ?
Alors, je suis très, très satisfait de ce forum économique parce que c'est moi qui l'avais demandé, pour rien vous cacher, au ministère des Outre-mer et à Bercy, qu'on puisse tenir un moment économique en plus du moment politique qui était prévu. Parce que, bien évidemment, que la question économique reste au cœur de tous nos enjeux et qu'il fallait remettre du lien entre Bercy, le ministère des Finances, et les acteurs économiques calédoniens. Ce lien qui avait un peu disparu depuis que Bruno Le Maire a quitté le gouvernement. Et donc, je suis content parce que ça a permis, finalement, à ce que tout le monde se connaisse. Voilà, il y a la nouvelle ministre, Amélie de Montchalin, qui est en charge du dossier calédonien au ministère des Finances, qui a pu rencontrer les acteurs calédoniens, pas seulement politiques, mais comme je le disais, économiques. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a quand même voté ce dernier mois le budget 2025 de l'État, parce que quand je suis parti, il n'était pas voté. Maintenant, je reviens, il est voté, avec le 1,2 milliard d'euros prévus pour la Nouvelle-Calédonie, soit 140 milliards de francs pacifiques pour l'année 2025. Donc ça va permettre de redonner un peu de souffle à nos institutions, à notre économie, de manière à ce que les entreprises puissent tenir le temps qu'on leur offre cette perspective politique.
Mais il faut continuer à être vigilant auprès de Bercy, il faut continuer à faire une espèce de bras de fer en permanence.
Ah ben là, le bras de fer, il est en permanence totale, parce que il y a plus trop d'argent dans les caisses en métropole. Ils cherchent à faire des économies partout. Et les discours politiques sur la pleine souveraineté, l'indépendance inéluctable, ne donnent pas à Bercy l'envie de verser des milliards d'euros à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils disent, mais si on les verse à un pays qui va devenir indépendant, c'est de la perte, en fait. Donc, il faut à tout prix contraindre Bercy, un, à verser de l'argent, et puis deux, expliquer à l'État qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie, elle va rester française. Ouais.
Ah, vous avez aussi fait adopter en commission une proposition de résolution européenne qui dénonce les ingérences de l'Azerbaïdjan. C'est la première étape, la commission. Qu'est-ce que vous attendez maintenant et qu'est-ce que vous attendez de l'adoption de cette proposition ?
En fait, l'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble de la classe politique nationale sur ce que fait l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur tous les autres territoires d'outre-mer, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, etc., Polynésie française. Et de manière à ce que l'Azerbaïdjan, à un moment donné, se disent « Ok, là, on va trop loin, la France réagit et l'Europe réagit ». Et d'ailleurs, ça a commencé à marcher, puisque suite au vote de ma proposition de résolution européenne en commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, tout de suite derrière, l'ambassadrice d'Azerbaïdjan a écrit un courrier à tous les députés pour expliquer que, promis, il n'y avait pas d'ingérence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, dans les autres territoires d'outre-mer. Donc ça montre que le rapport de force diplomatique, là, cette fois, est important. Moi, je ne vais pas lâcher, c'est pas parce que l'ambassadrice nous écrit que je vais reculer. Au contraire, ça va passer en hémicycle, donc il y aura un débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. internationale sur l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Et une fois que ça sera voté dans l'hémicycle, ça va aller à Bruxelles et à Strasbourg, au Parlement européen. Et là encore, je me suis assuré que ça serait repris par l'ensemble des groupes politiques. J'ai rencontré les centristes, j'ai rencontré la droite et j'ai rencontré Madame Maréchal qui nous ont promis de soutenir cette démarche pour dénoncer les ingérences de l'Azerbaïdjan.
Alors en attendant, il y a deux rendez-vous cette semaine, le 19 février, mercredi. Hein, vous avez une réunion de l'ensemble des partisans de la France pour, face à vos militants, face à vos sympathisants. Et puis en fin de semaine, il y a l'arrivée de Manuel Valls. Qu'est-ce que vous dites aux Calédoniens? Comment est-ce qu'ils peuvent se faire entendre, entre guillemets, dans le contexte particulier de ces déclarations?
Je leur dis que là, encore une fois, on va avoir besoin d'eux. On va avoir besoin d'eux. C'est important de démontrer qu'on est présent. Parce que vous savez, des fois en France, ils pensent que... nous, en fait, les non-indépendantistes, on ne représente pas grand-chose, que la majorité silencieuse des Calédoniens veut une espèce de compromis d'indépendance-association, vous voyez ce que je veux dire? Donc on a besoin que tous ceux qui croient à la démocratie et au résultat des trois référendums se mobilisent. Donc on a besoin d'eux mercredi soir au Méridien, à 18h, évidemment, pour qu'on fasse un compte-rendu exhaustif de ce qui s'est dit à Paris. Et puis je pense que, comme tous les voyages de ministres débutent par un dépôt de gerbes à Bir Hakeim pour rendre hommage aux Calédoniens tombés pour la France, je trouve que, comme c'est public, s'il pouvait y avoir un petit peu de Calédoniens pour rappeler à Manuel Valls que la Calédonie est française, je n'en serais pas mécontent.
Un dépôt de gerbes qui aura donc lieu samedi matin, c'est le jour de l'arrivée.
Samedi matin à 10h30.
Du ministre des Outre-mer, Nicolas Mézor, merci d'accepter notre invitation.
Merci beaucoup.
Une interview que vous pourrez réécouter et visionner sur notre site internet le www.rrb.nc.